Chapitre 16. Lâcher les pédales. Je prends le temps, même si le silence est pesant comme un ciel d'orage. J'attends toujours quelques instants en début d'entretien pour laisser une chance à la parole spontanée d'émerger chez mes patients. Cela fonctionne parfois. Pas toujours. Pas là. Capucine a des allures de petite fille timide, le regard vers le sol. Ses pieds sont légèrement tournés l'un vers l'autre. Je le vois comme un signe de protection, de repli sur soi. Je me ferme, je me pelotonne, je me mets en position fœtale. S'ouvrir à l'autre n'est jamais facile, qu'il soit psy ou pas. Notre étiquette de médecin ne nous donne aucun passe-droit pour rentrer dans l'intimité des états d'âme. D'un mouvement rapide et régulier entre son pouce et son index, elle fait tourner une petite chevalière autour de son majeur gauche. Je tente une ouverture. Elle était à votre père? Oui, il la portait rarement à cause des règles d'hygiène à l'hôpital. Elle vous va? Il avait les doigts fins. Des doigts de chirurgien pédiatrique. Oui. Et vous, vous avez des doigts de quoi? Elle écarte ses mains, les retourne plusieurs fois, les ferme, les ouvre, réfléchit. Peut-être est-ce la première fois qu'elle cherche à lire l'avenir dans cette partie du corps. Ces mains que nous voyons tellement qu'on finit par ne plus les regarder, alors qu'elles ont tant de choses à raconter. Sèches, rugueuses, douces, soignées, blessées, habillées de vaisseaux minuscules ou d'énormes veines sous la peau, comme des câbles sous la moquette. Des mains aux ongles courts ou longs, ou rongées, aux petites peaux arrachées sur les côtés, pour ceux qui ne supportent pas ce qui se dépasse, ceux qui accrochent. Nos mains ont un langage. J'aimerais tellement que ma patiente s'autorise à penser qu'elle a des doigts de fée. Des doigts de grande sœur fatiguée. Et c'est elle. Même les fées ont le droit d'être fatiguées. Je lui demande de quoi elle souhaite me parler aujourd'hui. Elle baisse le regard, joue avec la lanière de son sac, posée à côté de sa cuisse sur le fauteuil. Elle la tortille, la lisse, la tortille à nouveau, l'enroule autour de son doigt. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Pourquoi donc? Parce que ce n'est pas très intéressant. Allons bon. Détrompez-vous, cela m'est indispensable si vous voulez que je vous aide. Vous voulez bien que je vous aide? Je crois que oui. La dernière fois que vous avez évoqué la décision de votre sœur, l'implosion que son annonce a provoquée en vous, l'épisode de la valise oubliée à la gare, et cette soirée durant laquelle vous vous êtes mise minable, je reprends vos mots, pour finir aux urgences. J'ai un peu perdu les pédales. Un peu voiture ou vélo? Pardon? Voiture ou vélo, sans réfléchir. Vélo. Ok. À quoi servent les pédales sur un vélo? À le faire avancer. Que se passe-t-il si vos pieds en glissent? Le vélo continue d'avancer? Bien! Première bonne nouvelle. Vous n'allez pas tomber tout de suite. Je ne suis pas déjà tombée. Qu'en pensez-vous? Je n'avais pas le droit de tomber jusque-là. Pourquoi? D'abord, je voulais que mon père soit fier de moi. Puis, quand il n'a plus été là, je devais rester debout pour ma sœur. Je ne peux pas tout lui dire. C'est à elle de le comprendre, de réaliser qu'on ne peut pas rester debout dans la tempête. Qu'il faut parfois plier un peu pour ne pas rompre. Le nombre de chaînes à qui j'ai déjà indiqué le chemin du roseau dans ce cabinet. Certains restent chênes, déracinés, au sol, laissés pour morts, offerts à toutes les attaques de parasites que compte notre société. Et d'autres comprennent qu'ils ont le droit de n'être que des graminées bousculées dans les bourrasques qui se redressent ensuite. Capucine est un mélange des deux. J'ai l'impression qu'elle a plié fort, mais qu'elle est déjà en train de se redresser. La force du chêne et la flexibilité du roseau. Je n'ai aucune preuve, seulement l'impression qu'elle me laisse. Je suppose qu'elle a perdu tous ses repères après l'accident, tous ses rêves d'avenir. Un champ des possibles tout entier, inondé par les larmes d'un chagrin trop puissant. Comment pouvait-elle continuer à imaginer des projets alors qu'un accident venait de lui prouver que tout était susceptible de s'arrêter? Qu'on pouvait être coupé en plein vol, abattu comme une grive, pan! Le battement d'ailes, les grands espaces, la liberté. Et puis plus rien. Juste une petite sœur innocente et orpheline, comme elle. S'est-elle autorisée à être orpheline alors qu'elle venait d'être majeure? Ce sont les enfants qui sont orphelins. Elle avait 18 ans, officiellement adulte, mais elle était encore une enfant. N'est-ce pas votre sœur qui vous tenait debout inconsciemment?
Je ne sais pas. Son annonce a fait l'effet d'une trappe qui s'est ouverte et m'a suspendue au-dessus du vide.
C'était peut-être elle, la trappe. Sa simple présence. L'alibi pour tenir. Et le fait qu'elle s'en aille m'enlève toute raison de tenir, donc je m'écroule. Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'Adélie prend une décision inimaginable. Elle gâche tout.
Que gâche-t-elle? Son avenir? Elle n'a pas l'air de le prendre ainsi. Et le vôtre, comment est-il? Gâché aussi? Par quoi?
Je la vois baisser les yeux, reprendre sa lanière. Les bouts de ses pieds se rapprochent à nouveau. Je me prépare au tsunami. Un ange passe en éclaireur. Le déferlement n'arrive pas. Elle a érigé des digues hautes et solides. Elle serre la mâchoire. Je le distingue à cette petite boursouflure musculaire juste en dessous de l'oreille qui se tend et se détend. Elle a recommencé à faire tourner sa chevalière et ses pieds sont maintenant l'un au-dessus de l'autre. Je la vois reprendre sa respiration et saisir son bouclier pour se protéger de mes coups de lance, pourtant bienveillants. Elle a stabilisé ce petit tremblement émotionnel que j'ai cru déceler. Cette faiblesse dans la paupière gauche, ce menton qui frémit à peine, comme un mur qui se fissure et qui laisse l'eau suinter. Capucine a repris le contrôle. J'avais réussi ma première année de médecine du premier coup, comme Adélie. J'ai dû tout interrompre pour m'occuper d'elle après l'accident. La voir gâcher cette réussite me fait mal au cœur.
Qu'est-ce qui compte le plus pour vous la concernant?
Qu'elle soit heureuse après ce qu'elle a vécu, petite.
Qui vous dit qu'elle le serait plus en étant médecin qu'en étant activiste climatique?
Activiste n'est pas un métier.
Non, mais cela peut avoir du sens.
Médecin aussi.
N'est-ce pas à elle de trouver ce qui lui convient le mieux? C'était à moi de veiller sur elle et de lui construire un futur sans parents. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour qu'elle prenne ce chemin aujourd'hui.
Qui vous dit qu'elle n'aurait pas pris la même décision sans l'accident?
Rien. Qui vous dit que ce n'est pas un bon chemin?
Il est aléatoire.
Et alors?
L'imprévu est inconfortable.
L'inconfort est un souci?
Pour moi, oui.
Et pour elle?
Il semble que non.
Et vous, vers où voulez-vous vous orienter maintenant? Elle tournicote son foulard coloré, les yeux dans le vide. Des yeux qui commencent à briller. Je l'entends à peine répondre à un « Je ne sais pas. » J'attends, en silence. J'ai trouvé les carnets de mon père dans le grenier.
Ah.
Plusieurs dizaines de cahiers identiques de différentes couleurs, et j'ai reconnu son écriture. Deux dates sur chaque couverture qui se suivent de carnet en carnet. Je crois qu'il tenait un journal. Je n'ai pas osé les ouvrir.
Pour quelle raison?
J'aurais l'impression de le trahir.
Peut-on trahir les morts?
En ne respectant pas leur dernière volonté? Vous a-t-il dit un jour de ne jamais toucher à ses cahiers? Est-il écrit sur la première page de ne pas les lire?
Non. Était-il accessible? Dans une boîte fermée. La clé était sous mon nez, accrochée à un porte-clés que je lui avais bricolé à l'école primaire. N'est-ce pas étrange? Elle me sourit enfin. Oh, un minuscule sourire. Un sourire de rien du tout, un murmure de sourire. Pourtant, c'est à mes yeux une petite victoire pour elle. Et pour moi.